Dans quel monde on vit fête ses 10 ans et si pour célébrer cet anniversaire, vous vous abonnez à notre podcast. Déjà, merci pour ce chouette cadeau.
Les gens qui sont condamnés, ce qui est une part infime, je le redis, des auteurs et qui vont finalement en prison, est-ce que ça les aide vraiment? Est-ce que ça leur a permis de se remettre en question et d'avancer? Je ne suis pas convaincue de ça, moi.
Bonjour, c'est Simon Brinfaux au menu de ce numéro de Dans quel monde on vit, quitter la nuit et égoïsme au féminin avec la cinéaste Delphine Girard et l'économiste et psychanalyste Corinne Maier.
La première.
Dans quel monde on vit ?
Dans quel monde on vit ?
Simon Brinfaux.
Cela ne vous aura pas échappé, il est beaucoup question d'entendre et d'écouter dans l'actualité ces derniers temps. Entendre notamment la parole des femmes, cette parole qui a été étouffée, rendue silencieuse. Il y a quelque chose qui me frappe. La plupart du temps, nous ne faisons pas la différence entre entendre et écouter. Nous disons facilement l'un pour l'autre. Or, entendre et écouter sont deux choses bien différentes. Comme l'écrit le philosophe Jean-Luc Nancy, si entendre c'est comprendre le sens, écouter c'est être tendu vers un sens possible. Et par conséquent, non immédiatement accessible. S'il faut donc savoir entendre, bien entendu, il faut aussi sans doute apprendre à écouter. Ça veut dire aussi que quand on se contente d'entendre, on n'entend pas tout et on n'écoute pas toujours. Il y a quelque chose qui nous échappe et ce quelque chose, c'est peut-être le plus fondamental. Écouter, c'est en fait commencer par se taire, par faire de la place au silence. Écouter, c'est accueillir la parole de l'autre telle qu'elle est, telle qu'elle se présente à nous sans se substituer à lui. Écouter, c'est donner de l'attention, du temps surtout. Ce n'est pas interpréter, encore moins juger, ce n'est pas apporter une solution ou une explication à la souffrance de l'autre, par exemple, c'est lui permettre de la dévoiler, tout simplement. Écouter, c'est se rendre présent à l'autre, non par les mots ou par l'intelligence, mais par le corps, les yeux, le visage, le sourire, le geste. Alors oui, la parole libère, se libère, mais à quoi bon parler si personne ne vous écoute? On me dira que la démocratie est pleine de lieux où l'on peut s'exprimer et on peut entendre justement la parole, mais ne manque-t-il pas de lieu d'écoute dans nos démocraties. Si l'espace public reste anonyme, si nous continuons à entendre sans écouter, comment la parole peut-elle bien avoir des effets concrets sur nos vies? Et si apprendre à écouter, c'était en fait la première façon d'apprendre à vivre ensemble?
Dans quel monde on vit?
Vous l'avez compris, on va s'exercer aujourd'hui non seulement à entendre, mais aussi et surtout à écouter. Et j'ai envie de vous poser déjà une première question à toutes les deux, Delphine Girard, Corinne Maier. Quand est-ce que vous avez écouté pour la dernière fois?
J'essaie d'écouter un peu tous les jours quand même, d'entendre et de prendre toujours le parti de la remise en question ou en tout cas de jamais considérer que ma position est acquise ou que c'est... Après, on écoute des tas de choses. Ce matin, j'ai écouté les oiseaux. Je me suis dit, tiens, on dirait un début de printemps alors que c'est le mois de février. Donc voilà, il y a des tas de choses à écouter.
Et vous, Corinne Maier?
Ce matin dans le tram, parce que en fait moi je suis une grande écouteuse aux portes et partout, enfin partout où je peux, parce que je m'intéresse beaucoup à la vie des autres, étant donné que j'ai une vie un peu retirée, donc dès que je vais dans un lieu public, je m'arrange pour m'asseoir à côté de gens qui sont en train de discuter pour savoir de quoi ils parlent. En fait, c'est un peu une manie chez moi, et donc j'étais à côté de deux jeunes femmes étudiantes, et donc j'écoutais en fait leur conversation, et puis c'est toujours intéressant en fait de voir comment les gens parlent, les expressions utilisées, de quoi ils parlent. Non, moi je suis une grande malade des oreilles en fait, et de l'œil aussi.
Et je vous présente donc maintenant, sans plus attendre, nos deux invités du jour. Delphine Girard, vous êtes née au Québec, vous avez étudié la réalisation à l'INSAS à Bruxelles, vous avez notamment écrit et réalisé le court-métrage Caverne et Une sœur qui avait été nommée en 2020 pour l'Oscar du meilleur court-métrage de fiction. Dans votre premier long-métrage, cette fois, vous prolongez la réflexion amorcée avec Une sœur, ça s'appelle Quitter la nuit et on en parle dans quelques instants. Et quant à vous, Corinne Maier, vous êtes essayiste, psychanalyste, économiste, vous êtes l'autrice d'une quinzaine d'ouvrages dans des domaines très différents mais qui se recoupent tous d'une certaine façon. On peut citer notamment Bonjour Paresse ou encore No Kids, et vous publiez un nouvel essai intitulé Me First, manifeste pour un égoïsme au féminin. Tout un programme, ce sera dans quelques minutes. Et bonjour Juliette Goudeau.
Bonjour Simon, bonjour à tous.
Juliette, les auditeurs de cette émission et de la première vous connaissent bien. Vous êtes journaliste et critique de cinéma et comme c'est la tradition dans cette émission, vous avez pris votre plume et vous avez une lettre à nous partager. Alors, à qui avez-vous écrit cette fois?
J'ai écrit aux jeunes filles de 15 ans.
En toutes lettres, ce sera vers 10h30, dans une petite demi-heure donc, et tout de suite nous allons essayer d'en savoir un peu plus directement sur nos invités. Un son en guise d'autoportrait, c'est le moment du selfie sonore. Voici le vôtre, Delphine Girard. Autoportrait en forme d'Eminem, donc.
Oui, bah, c'est un élan, en fait. Je sais pas, je réfléchissais à votre question et je me disais, ah, il y a quelque chose dans cette chanson qui parle de désir, qui parle d'y aller, qui parle de lâcher prise aussi, ouais. Et je sais pas, j'ai écouté beaucoup ce morceau en route vers le plateau de tournage le matin pour me donner l'énergie et la foi. Donc voilà, j'ai repensé à ça.
Et pour vous, Corinne Meyer, bah, ce serait plutôt ceci.
Je suis vieille et je vous encule avec mon look de libellule.
Ça, c'est direct, ça.
Ah, j'adore. C'est... En fait, c'est très choquant, mais en même temps, elle a un style incroyable et puis une voix superbe. Donc, ça donne. Le mélange des deux est magnifique.
Brigitte Fontaine,
en effet. C'était donc pour vos selfies sonores. Nous allons jeter maintenant un coup d'œil sur l'actualité de cette semaine, notamment marquée par des fusillades à Saint-Gilles.
Ça fait 3 jours qu'il y a des fusillades ici, toujours à la porte de Halle. Des sortes de trafic, sûrement.
C'est la guerre. C'est ça qui est en train de se passer devant nos yeux, c'est la guerre.
Alors que les appels se multiplient de par le monde face aux conséquences potentiellement dévastatrices d'une opération à Rafah, l'armée israélienne a pris pour cible l'hôpital Al-Nasser dans le sud de la bande de Gaza, où se cacheraient des combattants du Hamas.
Il y a l'armée israélienne et les gens sont contraints de partir. Ils sont terrifiés à l'idée d'être tués. L'armée israélienne entoure l'hôpital et on ne peut pas sortir.
Est-ce la fin de l'omerta dans le monde du cinéma français? Les déclarations de l'actrice Judith Godrèche au sujet des réalisateurs Benoît Jacquot et Jacques Doyon ont fait l'effet d'une bombe.
Moi, je n'ai jamais été attirée par Benoît Jacquot, mais je me suis retrouvée avec lui et je me suis retrouvée dans son lit et je me suis retrouvée avec sa petite femme, son enfant-femme.
Son objet sexuel.
Voilà.
L'actualité est souvent sombre, mais heureusement, il reste l'amour. C'était aussi la Saint-Valentin cette semaine.
I love you.
Ich liebe dich.
Ich hoffe.
Ich liebe.
Te quiero.
Ti amo.
C'était donc quelques temps forts de l'actu de cette semaine. Et de votre côté, qu'est-ce qui a retenu votre attention, Delphine Girard?
Moi, j'ai du mal à regarder autre chose que ce qui se passe en Palestine, là, pour l'instant. Je trouve que c'est vraiment glaçant, en fait, de voir l'étendue de ce désastre et le manque de réponse pour l'instant. Moi, je suis glacée par cette actualité-là.
Et vous, Corinne Meyer, il y a quelque chose qui vous a interpellé particulièrement dans l'actualité de ces derniers jours?
Alors, je suis d'accord, effectivement, c'est vrai que le Proche-Orient, c'est une horreur absolue. On a l'impression de ne rien pouvoir faire, en fait, d'être face à quelque chose qui nous dépasse totalement. Alors, ce qui a quand même retenu mon attention, c'est par ailleurs, enfin, quelque chose qui est plus, je dirais, enfin, plus proche de nous et plus léger, en tout cas. Plus léger, mais enfin qui me concerne davantage, c'est l'affaire Gérard Miller, en fait, puisque ouais. Je connais bien les milieux de la psychanalyse et je suis atterrée par ce qui a été révélé, c'est-à-dire la personne qui, sous couvert de professionnalisme, fait des sortes de passes d'hypnose à des jeunes femmes et puis en profite pour effectuer des agissements complètement enfin moches, quoi. Donc je pense que ça nuit à la psychanalyse, en fait, ça rejaillit sur toute la profession. Il y a quand même des gens très sérieux qui, eux, travaillent et qui réfléchissent, en fait, qui passent pas leur temps sur les plateaux à draguer des nanas. Donc c'est assez consternant et je pense qu'il faudrait, dans le domaine de la psychanalyse, comme dans le domaine d'ailleurs du cinéma et de beaucoup de domaines, oui, il faudrait un grand coup de balai.
Et vous, Juliette?
Oui, on en a parlé dans ce qu'on a pu entendre. C'est vrai que moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est cette révolution en marche dans le cinéma français, le MeToo qui arrive enfin dans le cinéma français ou francophone, avec une révolution à la fois dans les représentations, c'est-à-dire ce qu'on voit à l'image est différent grâce aux réalisatrices notamment, mais aussi dans les méthodes de travail. On a envie que ça change et c'est en marche. Et c'est vrai que, comme le dit Anouk Grimberg, ça me semble difficile à arrêter.
C'était au temps fort de l'actualité. Eh bien, on va justement parler de cinéma et de paroles des femmes avec Delphine Girard maintenant.
Police les urgences, je vous écoute.
Oui, c'est moi.
Je suis désolée, j'ai pas pu te rappeler plus tôt. On est sur la grande route qui quitte Malœil, tu vois?
La route qui quitte Malœil. Et vers où, madame?
Ouais, je suis en retard, j'ai pas vu le temps passer.
Quelle est l'urgence, madame?
Je sais, ouais. Mais je t'appelle pour voir comment on fait pour la petite.
Oui, mais expliquez-moi la situation, s'il vous plaît.
Je sais pas.
Madame, ici, c'est les urgences de la police. Si vous ne me dites pas en quoi je peux vous aider, je vais devoir raccrocher, désolée.
Non, s'il te plaît.
Madame? Est-ce que vous êtes libre de parler?
Non.
D'accord, j'ai compris.
Un extrait de votre film « Quitter la nuit » Delphine Girard, 25 minutes à l'intérieur de l'habitacle d'une voiture où une femme tente, sans éveiller les soupçons de l'homme qui est à ses côtés, de faire comprendre à son interlocutrice au bout du fil la détresse dans laquelle elle se trouve. Ces minutes sont chargées d'une immense tension. C'est une vie qui bascule, voire plusieurs. 5 ans après votre court-métrage « Une sœur », encensé par la critique, vous signez donc une version plus longue de celui-ci. Ça s'appelle donc « Quitter la nuit », une œuvre troublante, pesante, dérangeante à certains égards, une plongée dans une nuit très obscure. Le temps passe, le spectateur assiste au processus, au lent processus de la justice. Comment sortir de cette nuit? Comment quitter la nuit? C'est la question que se posent vos personnages. C'est un sujet, on le voit, extrêmement difficile. Comment on entre et comment on sort justement d'un tel projet, Delphine Girard?
C'est une bonne question. Je pense que moi, j'ai pas encore complètement quitté le projet. Pour y entrer, ça s'est passé sans que je m'en aperçoive. J'ai glissé et hop, j'étais dedans. Enfin, je pense que c'est aussi quelque chose qui était dans ma tête depuis longtemps. Puis quand le film est basé sur un vrai appel d'urgence, donc quand j'ai entendu cet enregistrement, ça a résonné tout de suite pour moi. Et là maintenant, donc il y a eu ce court-métrage puis le long, donc ça fait un long moment que cette thématique m'accompagne et je pressens que je vais en sortir bientôt et j'en suis assez contente, mais je sens que ça s'accroche encore.
Mais justement, pourquoi un long métrage? Qu'est-ce que vous n'aviez pas dit précédemment, selon vous?
Pour moi, c'est des recherches différentes. En fait, le cours, il était le temps de cet appel, donc c'était un thriller en temps réel dans la tension. Mais moi, j'avais une réflexion, puis aussi, voilà, il y a eu tout le mouvement MeToo en même temps, donc ma pensée a continué à évoluer sur la question. Et moi, j'avais envie d'explorer l'après-coup, en fait, ici, de regarder... Qu'est-ce qui se passe? Parce que oui, voilà, le début, cet appel, cette tension est résolu, mais c'est pas résolu en fait. Qu'est-ce qui va arriver au personnage après ça? Et donc l'idée du long métrage, c'était d'observer ce qui arrive, mais pour tous les protagonistes, donc c'est-à-dire la femme qui passe l'appel, celle qui l'a reçue, et l'homme qui est dans la voiture aussi. Donc on regarde ce qui leur arrive dans leur trajectoire intime, dans la suite de l'histoire.
Mmh. Oui, parce que vous mettez vraiment un coup de projecteur, c'est le cas de le dire, sur cette interlocutrice, cette femme qui reçoit l'appel. Hein, c'est un métier extrêmement difficile, extrêmement fort. Vous mettrez vraiment l'accent sur ce personnage. C'était important pour vous?
Mais ce qui était important pour moi, c'est que c'est le seul personnage qui fait le choix d'être dans cette histoire. En fait, les deux autres, ils n'ont pas le choix. Ils ont vécu cette nuit de violence, donc maintenant, ils sont obligés d'en assumer quelque chose, ou en tout cas, ils sont partis pour un tour de manège. Mais elle,
son
travail...
Métier.
Oui, c'est son métier, puis ça pourrait s'arrêter au moment où elle raccroche, en fait. Mais... il y a quelque chose qui dépasse son rôle dans l'institution, il y a quelque chose qui dépasse sa fonction et qui fait qu'elle veut continuer à faire partie de cette histoire. Donc elle a sa place. Ouais. Mmh.
C'est une réflexion, évidemment, sur le statut de victime, la difficulté d'être reconnue comme victime. Il y a cette phrase que je trouve terrible de l'enquêtrice qui dit à un moment donné « on va se concentrer sur ce qu'il y a vraiment eu lieu ». C'est terrible.
Parce et pas sur ce que vous imaginez.
Et pas sur ce que vous imaginez.
Ou ce qui aurait pu avoir lieu.
Ce que vous nous racontez, au fond. C'est terrible, cette phrase.
Oui, mais c'est très... en fait, la cruauté, elle vient du rendez-vous manqué, en fait. C'est-à-dire que la police, elle cherche des preuves. C'est ça, son travail. Et c'est compréhensible, en fait, dans un certain point de vue. Mais mon personnage, elle a besoin d'autre chose. Elle cherche autre chose. Donc, en fait, la cruauté de cet échange vient du fait que c'est pas du tout le même endroit qui se rencontre, en fait. Et... oui, moi, ça m'intéressait, en fait, parce qu'on entend beaucoup pour l'instant ce truc de « il faut porter plainte », mais quand on va observer un peu ce qui a été mon cas, j'ai essayé vraiment de faire un travail documentaire, de rencontrer plein de policiers et d'aller voir des procès, etc., bah, c'est pas du tout une mince affaire. Et la justice a beaucoup de mal et est très mal équipée en fait pour recueillir ces histoires-là qui ont très souvent pas de preuves.
Et on comprend d'ailleurs pourquoi à un moment donné votre personnage veut retirer sa plainte. Et là j'ai appris quelque chose, on peut pas retirer sa plainte.
En Belgique c'est comme ça.
On peut
en
pas
fait,
retirer sa plainte.
Si vous avez rapporté des faits qui sont considérés comme hors la loi en fait à la justice, en fait la justice s'empare de votre cause d'une certaine façon, mais vous pouvez vous y associer, mais vous pouvez pas l'arrêter quoi.
C'est terrible ça, parce qu'on la sent à ce moment-là votre personnage complètement emprisonnée au fond. Elle était emprisonnée dans cette voiture, elle se retrouve presque emprisonnée quand elle est à la police.
Bah pour moi c'était vraiment la réflexion de me dire en fait on vous enlève le contrôle sur un moment et tout ce qui suit après continue à rejouer ça dans des moindres mesures. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de psys avec lesquels j'ai discuté aussi qui m'expliquaient qu'ils hésitent à conseiller parfois à leurs patientes de porter plainte parce qu'ils savent que ça peut être des retraumatismes. En fait, c'est pas forcément... Quand ça se passe bien, ça peut faire beaucoup de bien, mais c'est pas forcément le cas. Et rarement, enfin, quand on voit les chiffres de condamnation, c'est terrifiant, en fait. Donc, c'est aussi s'exposer... avoir sa vie questionnée, à devoir se surjouer comme victime, à entendre des gens qui vous disent que vous vous en remettrez jamais. Enfin, ça fait beaucoup de choses en fait à dépasser. Et moi, je me disais, mais en fait, mon personnage, c'est pas son truc. Quoi. En fait, elle s'en fout. Elle est occupée par la réparation. Elle est occupée par la vitalité. Elle va pas vouloir s'aliéner pour répondre à ce que la police a besoin qu'elle soit pour être entendue. C'est pas son truc.
Corinne Maillard, j'imagine que des cas comme ça, vous avez déjà dû y être confrontée.
Heureusement, assez rarement. Je pense que je vais y passer pour un psy de salon, probablement. Mais non, effectivement, je sais que ça existe. Et c'est vrai que c'est tout le problème, en fait, de ces exactions et de ces personnes qui sont victimes. Que faire? Comment les écouter? Et surtout, comment les orienter, en fait? Enfin, qu'est-ce qu'on fait, en fait, en tant que psy, finalement, où on est là pour recueillir une parole et essayer de trouver un sens? Mais est-ce qu'il faut forcément jouer l'assistante sociale, en fait? C'est une vaste question.
Vous montrez bien aussi, Delphine Girard, toute la complexité de ce phénomène, ce fameux phénomène dont on parle beaucoup aujourd'hui, du consentement. Parce que votre personnage, au départ, elle voulait, elle le dit, c'était possible qu'elle aille chez l'homme ou que lui aille chez elle. Et puis tout d'un coup, elle ne veut plus.
Oui. Mais pour moi, c'est pas vraiment la question du consentement. Ça, j'avoue que je l'entends beaucoup, donc je sens qu'il y a encore un endroit où le vocabulaire est peut-être pas le même pour tout le monde. Mais je trouve que quand on voit le film, c'est assez clair. En fait, ça met un peu de temps à se révéler, mais c'est très clair en fait qu'elle veut pas à un moment donné et que ça devrait s'arrêter là. Mais je pense que c'est plus. Enfin, c'est marrant parce qu'on a eu une projection. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais en fait, est-ce que c'est un film sur le fait qu'on a le droit de changer d'avis? Et je me disais, mais pour moi, c'est tellement évident, en fait, que oui, que je trouvais ça amusant que ce soit formulé comme ça. Mais je pense qu'il y a encore un résidu et que c'est pas aussi clair que ça, en fait, dans la tête de tout le monde, que chacun est libre de ses actions. Après, pour moi, c'est pas une méprise de désir qui se passe dans le film. C'est-à-dire, c'est pas un gars qui a pas lu les signaux, voilà, c'est pas ça qui se passe, non.
Qui a pas compris.
C'est pas une histoire pour moi, c'est pas une histoire de consentement, c'est une histoire de perte d'empathie d'un humain vis-à-vis d'un autre et de ne plus reconnaître qu'il y a une autre pensée en face de soi, en fait. Donc, c'est plus large qu'une méprise.
Finalement, l'empathie, c'est votre personnage qui est au bout du fil, qui en montre le plus, alors que finalement, elle sait si peu de choses de la personne qui est de l'autre côté du téléphone, même pas son nom, c'est extrêmement vague. Donc, c'est assez intéressant que cette distance crée pourtant une empathie immense.
Oui. Mais je pense que quand j'ai écrit le cours, donc qui est lié vraiment à cet appel et à ce personnage, on était avant le mouvement MeToo, et moi je pensais beaucoup en fait à toutes ces discussions que les femmes peuvent avoir, aussi des jeux de regard qu'il peut y avoir dans des soirées. Enfin, je trouve que si le mouvement MeToo a amené vraiment quelque chose de concret, en tout cas dans ma vie, c'est qu'il y a une discussion qui s'est ouverte avec les hommes qui sont autour de moi aussi, qui étaient vraiment plutôt qui restait entre femmes avant ça. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose presque d'un langage codé, en fait, qui avait lieu constamment et de t'as besoin d'aide, non, ok, tout va bien, tu me dis, enfin, des choses comme ça.
On passe par d'autres langages, peut-être, d'une certaine façon.
Oui, puis je trouvais que c'était touchant, en fait, de me dire, on sait pas si c'était tombé sur quelqu'un d'autre, si quelqu'un d'autre décroche le téléphone, est-ce qu'elle perçoit, est-ce qu'elle ressent de la même façon?
Même chose, ouais.
Parce que rien n'est dit, c'est que du ressenti, que de l'empathie, ouais.
C'est aussi un film sur le temps. Ce que vous racontez, la temporalité de la justice, on vit d'abord ces 15-20 minutes qui sont terribles, et puis c'est la lenteur du processus judiciaire. Et en fait, vous montrez bien, au fond, tous les ravages du temps. Parce qu'on se dit parfois, mais voilà, prenez le temps, on va attendre la justice. Vous savez, ça prend du temps, mais là, vous montrez les ravages très concrets de cette temporalité de la justice pour les victimes.
Mais c'est vrai que le film est construit pour que les 15 premières minutes soient en temps réel, puis petit à petit, ça se dilate complètement. Et en fait, c'est la réalité du temps que les victimes et les auteurs vivent, en fait. Et je trouve que c'était un élément important dans cette histoire-là, parce que il y a aussi le fait que j'ai l'impression qu'on raconte toujours ces histoires comme si elles étaient hors de la vie. Mais en fait, elles ne sont pas hors de la vie. Le lendemain, il faut amener ses enfants à l'école.
Il faut continuer à vivre,
il faut aller au travail. Et tout ça s'inscrit en plus dans un quotidien qui, de nos jours, peut être déjà complexe, en fait, à plein d'égards. Et donc, je me disais, il y a quelque chose. 2 ans après, comment... Parce que c'est ce que j'ai observé dans les procès où je suis allée. C'est-à-dire ça met du temps, vraiment, pour qu'il y ait une réponse. Alors, c'est variable. Des fois, c'est 6 mois. Des fois, c'est 4 ans. Mais 2 ans sans qu'il y ait de réponse aux questions qui ont été posées, c'est beaucoup.
Vous parlez de la vie qui continue. Dites-moi si je me trompe, mais je pense que le titre initial, c'était « Le plus vivant possible ». Pourquoi vous voulez appeler le film comme ça?
C'était le titre de travail. Pour moi, je voulais appeler le film comme ça parce que je me disais, en fait, c'était très lié au personnage de Ali. Je me disais, en fait, elle est préoccupée par l'idée de rester la plus vivante possible. C'est son objectif, c'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça. J'avais envie que le film aille vers quand même un mouvement, en fait, de sortir de l'obscurité. Donc, au final, quitter la nuit, ça fonctionne encore mieux. Ali, elle refuse d'être abattue, en fait. C'est un personnage qui lutte. Donc, j'avais envie que le titre indique cette direction.
Plus généralement, Delphine Gérard, comment notre société peut-elle sortir de la nuit par rapport à ça?
J'ai pas une réponse simple à cette question-là. Moi, j'avais l'impression, et ça participe à ce que j'ai essayé de faire avec le film, c'est que j'avais envie de mettre les récits en commun, en fait, de pas tomber dans un truc manichéen et de pas être d'un seul côté. C'est-à-dire, à titre personnel, je voulais voir ce que ça produit pour moi de suivre la ligne de tous les personnages, le personnage masculin y compris, et de réfléchir avec lui à comment il perçoit ce qu'il agit et à quel moment il peut se remettre en question. Donc je trouve que par rapport à ces questions-là, il y a un moment où en tant que société, on va devoir se mettre ensemble pour se dire qui on veut être en fait par rapport à ça, qu'est-ce qu'on veut faire de ces histoires-là.
Ça va au-delà de la question simplement de la justice, de la police, parce que parfois on résume au fond le problème à ça, on dit la police, il faut réformer la police, il faudrait que la justice soit ainsi ou autrement.
Mais quand le monde est bien fait, la justice et la police sont à l'image de ce que la société veut qu'elle soit ou ce qui peut être utile. Moi j'ai un vrai questionnement sur la justice pénale et l'efficacité que ça représente pour des histoires d'agression, de violence sexiste. Je trouve pas, enfin, et le personnage le dit à un moment, s'il va en prison, je sais pas si ça me va, s'il y va pas, ça ne me va pas non plus. En fait, je sais pas à quel endroit ça s'adresse par rapport à ce qui est vécu. Et la justice, pour l'instant, ne travaille pas à la réparation des gens qui ont vécu. Donc,
La justice se concentre uniquement sur la peine, trop sur la peine, sur la punition, dans le fond.
C'est comme ça qu'elle est pensée.
Pas de place pour la victime.
Mais c'est même... Elle applique ce qui est hors du cadre ou pas hors du cadre. C'est ça qu'elle fait, la justice. Donc, les gens qui sont condamnés, ce qui est une part infime, je le redis, des auteurs, et qui vont finalement en prison, est-ce que ça les aide vraiment? Est-ce que ça leur a permis de se remettre en question et d'avancer? Je ne suis pas convaincue de ça, moi.
Quitter la nuit, c'est dans les salles à partir du 21 février. C'est un film poignant qui interroge notre rapport à la parole des femmes. Aux victimes, vous restez avec nous. Dans les prochaines minutes, on va parler d'égoïsme au féminin avec l'essayiste, économiste et psychanalyste Corinne Meyer. Et dans un instant, Juliette Goudot, vous écrivez à...
J'écris aux jeunes filles de 15 ans.
Dans quel monde on vit? Ça continue.
La première.
Dans quel monde on vit? Simon Brunfaut.
J'espère que vous passez un agréable moment à notre écoute. Cette semaine, nous recevons la cinéaste Delphine Gérard pour son film « Quitter la nuit » et l'économiste et psychanalyste Corinne Meyer pour son livre intitulé « Me First, manifeste pour un égoïsme au féminin ». On en parle dans quelques minutes. Et puis à côté de moi, il y a Juliette Goudot. Vous avez rédigé, chère Juliette, une lettre. Et nous vous écoutons.
Chère jeune fille de 15 ans, je n'ai pas de fille, mais des garçons. Ils ont votre âge et c'est aussi à eux que je m'adresse. Nous n'aurons pas les mêmes vulnérabilités, pas la même histoire, mais il y a des mots communs, liberté, égalité, fraternité, oui, mais aussi sororité, respect, consentement, et puis, griffonné en lettres rouges, juste avant d'écrire cette lettre, impunité, minotaure, romantisme, cinéma, survivre. Je voudrais reprendre ces mots, les déplier avec vous. Quand on a 15 ans, je crois que ce qu'on veut le plus, c'est voir et être vu, exister dans le regard des autres. Chaque matin, chaque soir après l'école, je vous vois passer dans la rue avec la même émotion. Je vous vois marcher, seule ou par grappe de filles. Je vous vois rire, parler trop fort pour attirer les regards et puis disparaître, soudain fuir comme des hirondelles. Je vous regarde trop maquillée parfois, ou alors pas du tout, avec vos têtes de petit matin, vos têtes de pas assez dormies, mais qui se lèvent quand même pour être ensemble, parce que la vérité est là, dans ce mouvement perpétuel de vos êtres. Vous avez 15 ans, je vous regarde, et je reconnais ces battements de cœur qui font craquer la poitrine, devant la certitude de grandir, de devenir enfin cela, une femme, cette complexité, cette construction en mouvement. À 15 ans, vous êtes cette apparition permanente qu'on tentera de vous voler, mais nul n'a le droit de vous voler qui vous êtes, nul et pas même le cinéma. C'est de cela que je voulais parler, de l'écran de cinéma où des adultes avant vous ont projeté leurs désirs, des mythes qui nous font croire qu'il faut passer par la case romantique pour connaître l'amour, des minotaures et des loups qui se cachent dans la forêt. Il faut du temps pour être soi et pour pouvoir traverser la forêt vivante, mais il y a des raccourcis, des lumières, des objets magiques que je voudrais vous donner. Il y a des briseuses de sorts, comme Anouk Grimbert, comme Judith Godrèche, actrice et réalisatrice, et plus récemment, celles qui ont osé porter plainte contre ceux qui ont utilisé les actrices de 15 ans comme de la chair fraîche et qui, sous prétexte d'être des pygmalions, filent des baffes aux jeunes filles et les violent pour soi-disant faire de beaux films, confondant, pour le dire avec Hélène Frappa, harcèlement et mise en scène. Comme ces actrices dont j'ai l'âge, j'ai cru qu'on pouvait me faire du mal, que c'était le prix à payer pour être une femme, pour être la fille de ma mère et de sa mère avant elle, parce qu'en fait ça faisait déjà mal. La douleur d'être une femme, je ne voudrais pas vous la transmettre, seulement son écho, pour que cesse l'impunité. Ce que je voudrais vous dire, chère jeune fille de 15 ans, c'est que les seules images valables sont les vôtres, que le seul imaginaire valable est le vôtre. Et lorsque vous descendez le matin dans la rue de l'école, tête nue, en souriant à vos sœurs qui arrivent, je voudrais vous dire que vous êtes ce qu'il y a de plus précieux au monde. À vous toutes, Juliette.
Merci beaucoup, Juliette. Une réaction, Corinne Meyer? J'imagine que ça doit vous faire réagir, cette lettre.
Ah bah oui, je trouve que c'est un très beau texte, en fait. Et puis c'est vrai que je suis en train de me dire, 15 ans, qu'est-ce que ça m'évoque? Alors je suis en train de me dire, oulala, heureusement c'est loin pour moi, parce que ça n'a pas été la période la plus belle de ma vie. Et puis après, je pense aux 15 ans de ma fille, qui sont aussi quand même, qu'on commence à dater un peu, en me disant, mais heureusement, elle est sortie, effectivement, de cette période d'incertitude, où parfois, les jeunes filles ne savent pas qui elles sont, et puis vivent des expériences qui ne sont pas des belles expériences.
Et vous, Delphine Gérard, ça a résonné en vous, cette lettre?
Oui, bah, ça m'a fait pareil, je me suis vue à l'arrêt de bus, dans le froid, à 15 ans, je me suis dit, ah ouais, quand même, ça fait un moment maintenant. Ouais, je trouve que c'est marrant parce que je me disais récemment, en fait, c'est comme si on doit répéter tout le temps les mêmes choses. Ça peut paraître bizarre ce que je dis, mais en fait, il y a des nouveaux jeunes tout le temps et ils ne savent pas encore, en fait. Et c'est ça aussi l'enjeu. C'est-à-dire que ceux de 15 ans maintenant n'ont presque pas vécu MeToo, par exemple. Ils ne se sont pas intéressés à cette question. Donc, il y a quelque chose à renouveler jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça change vraiment et qu'on n'ait plus à prévenir les filles de 15 ans de ça, en fait. Et je trouve que c'est très beau.
Votre lettre, Juliette, elle est à lire, à écouter, à partager via notre site lapremière.be. Allez, on va un peu se déhancher maintenant.
Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile, ne la laisse pas.
Corinne Meyer, dans votre dernier livre, vous proposez aux femmes de se réapproprier un terme qui n'a pas toujours bonne presse, hein, l'égoïsme. Vous dites aux femmes, rebellez-vous, pensez à vous d'abord, l'égoïsme c'est très bon et ça se cultive. Et selon vous, de cet égoïsme au féminin naîtra, c'est votre idée, hein, le bienfait collectif. Vous osez sans tabou parler du quotidien, de votre vie privée aussi, hein. Ce Me First, c'est l'aboutissement d'un cheminement intellectuel, mais aussi d'un parcours de vie, le vôtre. Me First, ça veut donc dire qu'il est temps déjà de penser à l'après-MeToo, Corinne Meyer?
Oui, je pense qu'effectivement, il y a encore du travail dans MeToo.
On le voit.
Beaucoup de prises de parole, d'ailleurs, qui sont en cours. Donc c'est très bien, je pense qu'il va y en avoir d'autres. Et parallèlement, chacune peut faire des petits travaux pratiques chez soi qui peut-être n'ont l'air de rien au début, mais qui peuvent engendrer une sorte de grande révolution de l'égoïsme féminin. Puisque je pense qu'il y a tout un tas de normes sociales qui entourent les femmes et qui les contraignent à se mettre à disposition du couple, enfin du partenaire, de la famille, des parents, des frères, des sœurs. Et finalement, je pense que beaucoup de femmes ne vivent pas assez pour elles. Ce qui se reflète d'ailleurs dans les chiffres, j'en cite toute une tripotée dans le bouquin. Les femmes sont plus fatiguées que les hommes. Quand elles se mettent en couple, elles travaillent davantage que quand elles vivent seules, alors que l'homme, je parle des couples hétéros là, hein, alors que l'homme, lui, travaille moins que quand il est tout seul. Donc il y a vraiment il y a tout un éventail d'éléments qui doivent nous alerter et se dire qu'à la fin il faut quand même que les femmes se réapproprient leur propre vie, leurs envies, leurs ambitions, parce que au fond tout ça, la conséquence c'est un chiffre épouvantable. Elles font dans le monde les deux tiers du travail domestique, c'est-à-dire du travail ménager à la maison.
Et tout ça est non rémunéré.
Alors oui, il s'agit de travail non rémunéré. Et surtout, ce chiffre, enfin ce pourcentage affreux, n'évolue pas. C'est-à-dire, ça reste comme si c'était une sorte de norme sociale, rarement questionnée finalement. Et c'est précisément ça que je veux secouer en disant aux femmes, pensez à vous d'abord en fait. Soyez radines de votre temps, mentez s'il le faut, consacrez-vous à vos loisirs, à gagner de l'argent, à vous amuser avec vos copines, laissez les enfants se débrouiller, laissez les hommes faire le travail, même s'ils traînent des pieds, etc.
Mais justement, pour revenir sur la question de l'égoïsme, il y a quand même quelque chose là aussi, il y a une énorme inégalité, vous le montrez au début du livre, c'est que l'égoïsme, ça peut être quelque chose, un trait de caractère qui peut être plus ou moins accepté chez les hommes. On accepte plus facilement qu'un homme soit égoïste qu'une femme.
Oui, et je me réfère à cette fameuse publicité que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, égoïste en fait, puisque c'était un parfum il y avait une publicité dans les années 80 où on voyait effectivement, enfin c'était très, très esthétique en fait, on voyait des femmes au bord de l'hystérie en train d'ouvrir les volets d'un magnifique hôtel et crier égoïste à un homme très beau et qui partait tranquillement tout seul. Et j'aimerais bien qu'on fasse la même publicité avec une femme et des hommes qui lui crient égoïste, parce que je pense qu'on a... Effectivement, c'est mal perçu chez une petite fille. Il y a toute une petite fille égoïste, on lui répète que c'est pas bien, que tout ça, alors qu'un petit garçon, on se dit, oh, bah, c'est dans la norme.
Au fond, c'est un petit garçon.
Oui, c'est ça, ils sont tous comme ça.
Ça veut dire aussi qu'on en finit un peu avec tous ces discours autour du care, de l'empathie, qu'on cantonne souvent à la question des femmes, justement. Là, vous renversez tout, vous dites, bah, au fond, plus trop d'empathie, mais plus d'égoïsme.
Oui, c'est vrai que la question du care, donc le soin et le souci des autres, je pense qu'elle est vraiment centrale dans nos sociétés. Et au-delà même du propos de mon livre, il y a toute une réflexion, je dirais collective et politique, à avoir sur comment on répartit la charge de travail, en fait, et comment on rémunère les personnes, malheureusement, généralement des femmes, qui s'occupent des autres, qui sont souvent mal payés, mal considérés. Mais c'est un petit peu au-delà de mon horizon, même si j'en parle, en fait. Mais je pense que l'idée, c'est vraiment, du livre, c'est de donner des travaux pratiques, de suggérer des travaux pratiques aux femmes pour qu'elles se libèrent.
Cet égoïsme, Corinne Meyer, que vous décrivez, il a quand même quelque chose de particulier. C'est pas l'égoïsme au sens habituel que vous désignez ici pour cet égoïsme au féminin.
Oui, en fait, disons que ce qui se passe, c'est que je pense que les normes de comportement sont tellement intégrées chez beaucoup de femmes que finalement, elles consentent d'elles-mêmes, en fait, à l'ordre tel qu'il est. Elles rentrent, c'est ce qui m'est arrivé, en fait, elles rentrent dans des cases, en fait, parce que les cases sont là et que c'est difficile, surtout peut-être quand on est jeune, de dire, tiens, mais je vais faire différemment, en fait, je vais faire un pas de côté, ça, je veux pas vivre ça, donc je vais faire autrement. Donc, il y a des normes de comportement, des sortes de figures imposées qui se présentent. Et effectivement, elle collabore, et certaines avec enthousiasme, en fait. Et c'est pas uniquement, effectivement, on peut parler, c'est vrai qu'il y a une domination masculine, mais il y a aussi, ça peut être une domination des mères, en fait. Les mères peuvent être terribles. Il y a aussi les enfants aussi qui sont de véritables boulets.
Vous parlez du baby washing. C'est quoi le baby washing?
Oui, je m'attaque beaucoup à la question des enfants, effectivement, qui m'est chère, en fait. J'aime beaucoup cette question.
Ah oui, vous avez déjà écrit No Kids, donc vous avez un avis tranché sur la question.
40 raisons de ne pas avoir d'enfants, et ça ressort en mars dans une version augmentée. La société pousse les femmes à s'occuper de plus en plus des enfants et il faut en faire des tonnes et ça devient des heures entières de travail tout le temps. L'éducation positive, c'est un ravage pour les femmes.
Delphine Gérard, je vous voyais acquiescer. Vous êtes suffisamment égoïste, vous vous retrouvez dans les propos de Corinne Meyer?
Franchement, je crois que oui, c'est trash, mais oui.
Bravo, c'est très bien. Vous n'avez pas besoin de mon livre.
Je trouve qu'il y a un truc vraiment sur le fait d'être validée, enfin, dans la construction des femmes, c'est-à-dire d'être, et ça rejoint ce que disait la lettre de Juliette, c'est-à-dire à 15 ans, de vouloir convenir, en fait, et en grandissant, et même déjà à cet âge-là, il y a quelque chose dans le soin, il y a quelque chose... aussi dans le fait de gérer l'espace, justement, et de prendre en charge ça. Donc, il y a un truc à désorganiser en soi-même, en fait, plus que parfois de l'extérieur. C'est pas, c'est des choses qu'on fait sans même les voir. Mais moi, je suis extrêmement bordélique. Et donc,
mais du coup, la proposition, elle est quand même radicale et révolutionnaire. Vous serez d'accord pour dire ça, Corinne Meyer? C'est-à-dire que l'amour ne paye pas, le couple ne paye pas. Enfin, ça va jusque-là, quand même, de déconstruire les manières de vivre occidentales aussi. Capitaliste, peut-être.
Alors, ça, c'est une grande question, effectivement, la question du capitalisme en lien avec le féminisme.
Vous êtes économiste.
Oui, oui. Non, mais je préfère la laisser de côté parce que je pense que ça pourrait donner lieu à un colloque passionnant, en fait. Parce que dans une certaine mesure, le capitalisme, on peut dire que ça a pu libérer les femmes aussi, puisque ça a donné un certain nombre d'avancées technologiques comme la pilule. Ça a permis aussi aux femmes de sortir de chez elles pour travailler. Mmh. Puisque, donc, tout ça, bon, c'est compliqué. Donc, on va laisser le sujet de côté. Mais effectivement, oui, je pense que le repenser le quotidien, c'est radical. En tout cas, ça, oui, certainement.
Oui, parce que quand même, vous dites que ce qui en ressort, c'est que les femmes devraient quand même penser en termes un peu plus économiques, toutes ces matières-là, quelque part, de façon un peu plus cynique. Je parlais tout à l'heure de la Saint-Valentin. Juliette parlait un peu de cette vision romantisée de l'amour. Vous dites l'amour, c'est un piège pour les femmes.
Oui, alors c'est vrai, j'aime pas les grands idéaux, en fait, parce que souvent, ça cache des processus de domination, en fait. Les grands idéaux, par exemple, autour des enfants, l'enfant est merveilleux, il épanouit les femmes. Donc, je pense qu'il faut aller chercher un petit peu, c'est mon côté matérialiste, un peu creusons derrière les grandes idées, les grands machins qu'on nous explique, c'est formidable. Je me méfie beaucoup de l'idéalisme, donc creusons derrière et voyons ce que ça recouvre.
Et vous y croyez encore, l'amour, vous ?
Oui, mais l'amour sous plein de formes, en fait. C'est pas uniquement l'amour homme-femme, ça peut être l'amour avec des amis, ça peut être l'amour d'un groupe avec des gens qui sont très soudés entre eux, ça peut être beaucoup de choses.
Alors, il y a une figure que vous n'aimez pas beaucoup, Corinne Meyer, c'est la figure du... ce qu'on pourrait appeler le nouveau père, celui qui dit, moi je fais, tu vois tout ce que je fais quand même, c'est plus la même chose que mon père, etc. L'homme qui se dit ouvertement féministe d'ailleurs, ça vous l'aimez pas beaucoup celui-là?
Oui, ben je m'en moque beaucoup parce que effectivement, c'est vrai que beaucoup d'hommes sont convaincus qu'ils s'inscrivent dans une dynamique d'ouverture à des nouveaux comportements, qu'ils aident davantage les femmes que dans le passé. Ce qui est d'ailleurs vrai, en fait, il faut reconnaître pour beaucoup d'entre eux. Mais il y a encore tellement de progrès à faire qu'on a l'impression que c'est un peu dérisoire par moments. C'est vrai que faire la cuisine le week-end, c'est bien, mais finalement, c'est là où c'est pénible, c'est au quotidien, tous les jours, quand on a une famille, enfin tous les soirs. C'est ce qu'Annie Ernaux dit, le frichti, alors après, elle compte le nombre de repas. C'est ça qui est pénible, en fait, c'est pas de cuisiner le week-end. Donc,
Mais quelle est la place, justement, de l'homme dans ce nouveau système que vous proposez, au fond? Qu'est-ce qu'il doit faire,
l'homme? L'homme va d'abord être perplexe. Il va être très perplexe et il va se demander que faire. Et je pense que la nature...
Je vous avoue que je me suis posé la question. Je me suis dit que
faire. À vous de répondre, c'est moi.
Oui, d'ailleurs, vous avez un très joli habit où il y a écrit « Homme des bois ». Donc, on sent qu'il y a un questionnement fort qui est en train de s'exercer en vous. Et vous allez sortir transformé de la lecture du livre.
Être égoïste, donc, ça s'apprend, c'est ce que vous nous dites. Ça se cultive. Et vous paraphrasez Simone de Beauvoir. Une femme ne naît pas égoïste, mais elle peut le devenir. Comment on fait pour apprendre à être égoïste? Comment une femme peut-elle apprendre à être égoïste? Vous dites, au fond, vous proposez des choses assez pratiques, mais très concrètement, comment on fait?
Je pense que, bon, déjà, il y a beaucoup de choses en cours, beaucoup de textes, de prises de parole et de publications qui n'existaient pas il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Et je pense qu'elles ont beaucoup plus d'éléments, enfin factuels, concrets, de recherche. Je pense au livre Le genre du capital, par exemple, qui explique en quoi les femmes se font avoir par la famille. C'est écrit par des chercheuses et c'est très clair qu'effectivement, il y a un gros problème. Donc déjà, réfléchir, lire, discuter avec d'autres femmes et puis se demander comment elles-mêmes pourraient rétablir les choses chez elles avec leurs proches.
Dans le quotidien des femmes, évidemment, il y a la question de la sexualité qui intervient. Est-ce que vous diriez, au fond, on parlait des affaires dans le cinéma, que, au fond, la libération sexuelle n'a pas encore vraiment eu lieu? Celle qui a eu lieu, c'était celle essentiellement des hommes et pas encore des femmes?
Oui, c'est ce qu'on se dit aujourd'hui, mais je pense que c'est vrai, effectivement. Il y a une libération sexuelle des hommes, alors partiellement des femmes, puisqu'elles ont quand même pu disposer de leur corps, mais il y a une case manquante, c'est-à-dire, effectivement, les hommes ont eu la liberté de draguer les femmes partout où ils voulaient, avec cette idée un peu, un peu ancienne, que les femmes étaient finalement là pour, comme une sorte d'écran où ils pouvaient projeter leurs fantasmes. Mais l'inverse n'a pas eu lieu, c'est-à-dire que les femmes n'ont jamais eu vraiment la liberté de draguer les hommes, parce qu'il y a quand même beaucoup de barrières, et que c'est souvent mal perçu. Je sais, j'ai essayé, hein, donc... moi, j'aime beaucoup draguer les hommes, et je connais bien le sujet, et en fait, ils détestent ça. Donc finalement, si les uns sont libres de faire quelque chose et pas les autres, c'est qu'il y a encore beaucoup de travail. Mais je pense qu'on peut encore... j'espère que demain, je pourrai draguer à ma guise.
Et ou inversement, de pas faire l'amour avec eux.
Oui, enfin, tout à fait.
D'oser ne pas...
C'était aussi très mal perçu, effectivement. Oui, l'homme qui pense que ça y est, à la suite d'une conversation ou d'un échange, ça y est, il a emballé. Et effectivement, la fille qui dit « non, je ne suis pas intéressée », c'était aussi très mal perçu. Donc finalement, il y a les deux écueils. C'était finalement une sorte de double bind impossible, quoi.
Ouais, vous notez aussi l'importance d'avoir un lieu à soi. Hein. C'est tiré ça de Virginia Woolf, hein, qui avait écrit « Une chambre à soi ». C'est très important, ça, pour les... Pour les femmes, ça fait partie aussi de ce programme que vous nous proposez là.
Oui, ça peut, autant que c'est possible.
Évidemment.
Effectivement, une femme qui est immergée dans sa famille, et, disons avec famille, mari, enfant, compagnon ou autre. Mon référent est toujours la famille hétérosexuelle, c'est ce que je connais le mieux. Et donc forcément, elle est captive de l'entourage. Elle souffre du manque de place et du manque d'endroit finalement pour s'isoler et puis faire des choses pour elle.
Delphine Gérard, vous avez votre lieu à vous?
Oui, moi, oui. Moi, j'ai ma chambre à moi et j'en ai besoin. C'est un endroit... C'est important, en fait, d'avoir un lieu de repli. Après, aussi, je pense, moi, comme dans la création, c'est nécessaire, en fait. J'ai besoin de ce temps-là et d'un lieu de digestion, en fait, où je repose les choses à plat. Ouais.
Corinne Maillard, vous parliez tout à l'heure de chiffres. Effectivement, vous en donnez beaucoup. Il y en a un qui m'a marqué. 3% seulement de pères au foyer.
Oui, bah oui, c'est on attend que ça
progresse. N'attendez pas à ce chiffre. Je pensais que c'était plus important, 3% seulement.
Oui, c'est on voit là effectivement tous les grands discours sur. Alors ce qui est drôle, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'hommes, d'une hypocrisie totale, qui disent ah quelle chance ont les femmes de pouvoir rester à la maison pour s'occuper des enfants pendant plusieurs années quand ils sont petits. En fait, très peu saisissent cette chance.
Il y a aussi un poncif, quelque chose qu'on entend régulièrement, c'est concernant les grands-mères. Qu'ils vont s'occuper des petits-enfants. Et alors là, vous êtes très clair, refusez d'être une mamie gâteau. Mais alors, comment elles doivent faire, les grands-mères?
Oh bah, se défiler, en fait. Non, ça, c'est épouvantable, surtout qu'il y a beaucoup de vacances scolaires, en fait. Et donc, les parents ont tendance à exploiter les mamies pour qu'elles s'occupent des enfants pendant tout le temps où ils n'ont pas école. Et c'est beaucoup de temps, en fait. Et certaines se plient, encore une fois, trop facilement aux attentes des enfants et sont là à accueillir les petits-enfants pendant les vacances scolaires, les week-ends, les grèves des enseignants. Ça n'arrête jamais, en fait. Non, il faut vraiment être très ferme dès le début, en fait, et dire non, moi, je suis très occupée. Non, la phrase « je suis très occupée ».
J'ai autre chose à faire.
Oui. Mais je suis très occupée, je ne peux pas. Faut, je pense qu'il faut borner les choses tout de suite.
Corinne Maillard, je vous titille un tout petit peu, mais est-ce que la société qui va venir avec ce programme-là ne va pas générer finalement que de l'égoïsme? D'un côté, l'égoïsme au féminin et de l'autre côté, l'égoïsme au masculin. Est-ce que vous êtes sûre que ça va créer une société finalement plus égalitaire au bout du compte?
C'est pour ça que j'en appelle aussi parallèlement à une sorte de réflexion collective et politique sur la question en fait du soin de l'autre, parce que c'est une bombe en fait cette histoire, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont âgés, donc qui auront besoin de soins, et parce que parallèlement, en tout cas en France, les services publics d'accueil des autres se dégradent. Je parle aux services publics de la santé. Il y a aussi un certain nombre de scandales sur les maisons d'accueil de personnes âgées, les crèches. Et donc tout ça, en fait, ça, je pense qu'il faut vraiment se mettre tous autour d'une table ou se concerter pour réfléchir à ça. Qu'est-ce qu'on fait ? Parallèlement, bien sûr, à un certain nombre d'actions privées, en fait, qui nous appartient à chacune.
Mais ça veut dire qu'on leur demande quand même leur point de vue aux hommes sur l'avènement de l'égoïsme au féminin ou pas?
Non, alors ça, sur ce point-là, on leur demande pas leur point de vue et on commence tout de suite, aujourd'hui, et c'est maintenant.
Corinne Maillard, le message est passé, je pense. Chères auditrices, soyez égoïstes. À partir de maintenant, Corinne Maillard, vous restez avec nous. Et dans quelques instants, ça va frissonner sur la première. J'espère que vous passez un très bon début de week-end dans notre compagnie.
Dans quel monde on vit ?
Sur la première.
Merci de nous suivre en direct sur la première ce matin ou un peu plus tard en replay. Il est temps de faire entrer quelques frissons dans ce studio grâce à nos invités, Delphine Girard. Voici le son qui vous procure des frissons. She was right. She was right. She was right. She was right. Oh Lord. Oh, she was right. Qu'est-ce qu'on entend, Delphine Girard ?
On entend le groupe Fink et leur chanson She Was Right, et un saxophone distordu qui me bouleverse.
C'est le saxophone qui vous donne des frissons.
Ça, les paroles aussi, je trouve ça très touchant. En fait, c'est comme un adieu. On sent qu'il y a eu une rupture amoureuse. Ce qu'il dit dans les paroles, c'est qu'il lui donne raison d'être parti finalement. Et je trouve ça assez bouleversant comme chanson. Et c'est une musique que j'ai écoutée aussi beaucoup en écrivant le film et qui était une de celles que j'ai mis dans la playlist de l'acteur qui joue Darry dans le film, ce qui m'avait demandé de lui faire une petite liste de choses à écouter. Donc voilà, et ça me donne encore des frissons quand je l'écoute.
Et vous, Corinne Maillard, ce serait plutôt ça. Part dans l'Ouest, Corinne Maillard. Les cow-boys, les westerns. Pourquoi ça vous fait frissonner, ça?
Ouais, ça me fait frissonner parce que, en fait, j'adore les western spaghetti. Donc, les westerns européens, en fait, qui subvertissent les codes du western américain, où on ne tue jamais d'Indiens, donc ça, c'est bien. Mais il y a beaucoup de choses qui sont bien aussi, et notamment celui-ci qui est vraiment ultra décadent, enfin, pour moi. Parce que les deux personnages principaux sont pas du tout virilistes, en fait. Il y a un jeune, enfin, qui peu sûr de lui, qui est très incertain, pas construit, en fait, qui est souvent présenté comme mi-féminin, mi-masculin, puisqu'il est souvent maquillé dans certaines scènes. Et le vieux, entre guillemets, donc Henry Fonda, qui est un chasseur de primes, qui ne pense qu'à une chose, c'est à prendre sa retraite. Et donc, avec ces deux personnages, on a vraiment une approche du western qui est tellement décalée, enfin, avec les chevauchées, les scènes de fusillade. En fait, c'est tellement au second degré tout le temps que j'adore, en fait. Donc, j'aime beaucoup. Et celui-ci, vraiment, c'est un sommet du genre et je l'adore, en fait. Rien que de voir les scènes sur YouTube, ça m'enchante.
Et nous allons terminer avec vos choix culturels pour ce week-end. Delphine Girard, qu'est-ce que vous nous recommandez?
Moi, je vous recommande le film Poor Things de Yorgos Lanthimos. Pauvre créature, oui, je suis très mono.
Très bien, très bien, très bien.
Je l'ai trouvé lumineux. Explosif, subversif, j'adore ce film.
Et vous, Corinne Maillard, je suis sûr que vous avez une idée pour nos auditeurs.
Oui,
et nos
oui, auditrices. Oui, c'est un film aussi, donc c'est le film de Colline Grandeau qui s'appelle Le Ballet Libéré. Donc c'est un documentaire que j'ai vu l'an dernier, mais il est récent et ça raconte en fait le combat d'un groupe de femmes de ménage à l'UCL qui ont décidé de s'organiser pour virer leur patron et s'organiser en coopérative. Donc c'est un très beau combat, une émancipation.
On va aller au cinéma. Hein. Et vous, Juliette, un film aussi?
J'avais aussi un film, mais du coup, je vais peut-être choisir un livre si vous préférez.
Non.
Non. Bah alors, le film, c'est Green Border de Agnieszka Holland, qui est un film d'une réalisatrice polonaise qui est incroyable, qui a reçu le prix du jury au dernier festival de Venise et qui remet en scène, puisqu'il s'agit d'une fiction, l'enfer que vivent les migrants à la frontière de la Biélorussie et de la Pologne. C'est un film en noir et blanc qui reconstitue aussi différents points de vue des gardes frontières aux migrants en passant par les militants. Et c'est un film qui nous oblige, il me semble, puisqu'il filme un endroit en fait qui s'appelle la zone d'exclusion où les médias ne peuvent pas entrer. Et donc que c'est un film extrêmement courageux qui a été beaucoup décrit en Pologne, même s'il a un succès public. Il y a eu 700 000 spectateurs. Donc je pense qu'il faut vraiment aller le voir. Quoi.
Et pour ma part, ce sera un livre. Je vous recommande le livre de l'écrivain belge Jeroen Olieslagers dans son nouveau roman La femme sauvage. Il nous plonge dans l'envers de la deuxième moitié du XVIe siècle, hein, une période pleine de troubles, de développement commercial et d'effervescence culturelle. En mêlant l'affection et l'histoire à travers une langue sublime, il réussit un tour de force. Hein, le lecteur a littéralement l'impression de pénétrer à l'intérieur d'un tableau de Bruegel. Et je vous recommande aussi évidemment les créations de nos invités. Me First, manifeste pour un égoïsme au féminin de Corinne Meyer, c'est aux éditions de l'Observatoire, et le film de Delphine Girard, Quitter la nuit. Courez le voir en salle à partir de la semaine prochaine. Merci à toutes les deux d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
Et merci à vous, Juliette.
Merci.
À très bientôt.
J'espère que vous avez aimé ce numéro de Dans quel monde on vit. N'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser un commentaire et à nous offrir quelques bonnes étoiles. C'est précieux, ça permettra encore plus d'oreilles de nous écouter. Un grand merci et à très vite.
Retrouvez tous les podcasts de la RTBF, dont de nombreux inédits, sur RTBF Ovio.